Bonjour à toutes et à tous. Il y a dans le système des mois juifs, chaque mois, il a son le sujet du mois. Ça veut dire que ça, chaque mois, il a le sujet principal, le message principal. Déjà, l'idée de l'année juive est conçue surtout sur l'idée du mois, plus que dans l'idée de l'année. Ça veut dire que dans le système autre, il y a d'autres systèmes, qu'il y a l'année, et l'année on divise plutôt en 12. Mais il y a ceux qui ont le système du calendrier, c'est qu'il y a les mois qui est lié pas avec une notion de division, mais il a une propre identité. Ça veut dire que on se base sur une réalité. Dans notre cas, c'est la Lune, que la Lune, elle se renouvelle à nos yeux une fois par mois, à peu près 29 jours et demi. Mais donc, alors chaque fois, c'est considéré comme c'est le nouveau mois. Et ensuite, il y a ceux qui ont ce système, mais ils ne se rattrapent pas avec l'année, parce qu'il y a quand même une différence d'à peu près 11 jours entre l'année solaire et l'année lunaire, dans le système de ceux qui sont marqués dans la Torah, que nos mois sont des mois lunaires, ça veut dire qu'ils sont basés sur la Lune, et l'année est solaire. Et donc, une fois par quelques années, soit deux, surtout soit trois, on rajoute à une année, et comme ça on rattrape les différences entre l'année solaire et l'année lunaire. Alors c'est pas seulement, on considère pas seulement la lune comme une horloge pour les mois, c'est très symbolique. Parce que déjà, dans la vision juive, la lune, bien, c'est un sujet qu'on peut toujours rentrer dans la discussion, mais comme ça représente la lune. C'est une réalité, bien sûr, mais c'est une réalité qui a été créée pour l'humanité. Donc Dieu, il a créé le monde, même les choses énormes que nous, on est un petit bout de sable, rien du tout, mais quand même, tout a été créé pour l'humanité, pour l'homme, pour la terre, même si c'est tellement détonnant, mais important. C'est ça notre vision. Bien, on va laisser ce sujet pour une autre fois. Alors, la Lune, elle est créée. Donc, la Lune, en vérité, il y a ce que s'appelle l'heure, une réalité de ce que c'est l'heure, même sans la Lune et le Soleil. Seulement que on considère que la Lune et le Soleil montrent l'heure. Donc, le Soleil, ce qui concerne le Soleil, et la Lune, ce qui concerne la Lune. À ce moment-là, la Lune, donc on se base surtout, comme on a dit tout à l'heure, le calendrier juif est basé surtout sur la Lune, plus que le Soleil, seulement qu'on rattrape, on se rattrape une fois par an. Pourquoi la Lune? Parce que la Lune aussi, c'est très symbolique, les notions de renouvellement. Ça veut dire que la Lune, la nouvelle Lune et le nouveau mois, c'est quelque chose de nouveau. C'est d'ailleurs le nom hébraïque des mois qui s'appelle Chodesh, et ça vient du mot Chadash, nouveau, nouveauté. Parce que la Lune, chaque mois, c'est quelque chose de nouveau. À nos yeux, on a perdu la Lune, ça veut dire on ne l'a pas vue pendant au moins 24 heures ou plus. Et ensuite, on arrive à la voir à nouveau, et là, on considère que c'est quelque chose de nouveau. Et le symbole, le symbolique de cette idée, c'est qu'effectivement, chaque mois, il y a une nouvelle idée. Et quelque part, on se considère qu'on se renouvelle. Donc, ça veut dire que les mois, même si que ça se répète toujours la même chose, mais ça se répète de telle manière qu'il y a toujours quelque chose de nouveau. Et c'est ça aussi le symbole du calendrier juif, qu'il faut toujours, d'une part, on répète, ça c'est le mot shana en hébreu, répéter, mais ça veut dire aussi les mots shoné, ça veut dire différent. Donc d'une part, on répète la même chose, d'une autre part, on renouvelle. C'est quelque chose qui est différent. Et aussi, et surtout dans les mots lune, ou bien les mots moi, en hébreu qu'on parle de chodesh, que ça veut dire chidouche, nouveauté, parce que la vie juive en général aime les nouveautés. Donc, d'une part, c'est vrai qu'on peut voir une notion de répétition, mais le judaïsme, on voit ici une notion de nouveauté dans la répétition. C'est jamais pareil. Donc, alors déjà, un mois est différent que les autres. Chaque mois, il a son rôle, son but, son identité, son idée qu'il représente. Mais d'une autre part aussi, dans le mois même, il y a quelque chose, il y a comme la lune, que ça monte, ça descend, ça renouvelle, ça disparaît, ça va disparaître et ça va se renouveler à nouveau. Donc alors ça veut dire qu'on est tout le temps en train de changer, d'avancer. Et même quand on réduit quelque chose comme l'idée de la lune, c'est pour pouvoir ensuite renouveler, se renouveler. C'est ça l'idée principale dans le judaïsme, que on avance toujours, et même lorsqu'on recule, c'est pour avancer. Donc ça, c'est une idée très générale. Maintenant, chaque mois, il a son identité. Et le mois de Sivan, on en parle peu, mais le mois de Sivan, l'identité, c'est son chiffre, parce qu'on sait que dans la Torah, il n'y a pas le nom du mois, si on trouve un petit peu plus tard, d'ailleurs, pour le mois de Sivan, il est marqué déjà dans le livre d'Esther, mais en tout cas, c'est plus tardivement est arrivé ce nom qui était adopté ailleurs. Lorsque les Juifs ils sont revenus des Babylonies, ils sont emportés avec eux ce nom. Donc, alors, le nom, ils n'ont pas d'origine juive, et pourtant, on l'utilise comme si c'était notre origine, on trouve des symboles dans les noms, mais dans la Torah, c'est plutôt des chiffres. Donc, le premier mois s'appelle le mois de Nissan. Il s'appelle dans la Torah le premier mois. Le mois d'Iyar, il s'appelle dans la Torah le deuxième mois. Ensuite, le troisième mois, c'est le mois de Sivan. Le quatrième mois, c'est le mois de Tammuz, le mois où nous sommes depuis quelques jours. Donc, alors, dans le judaïsme, on fait attention aux chiffres. Donc, le fait même que c'est le quatrième mois, ce n'est pas seulement un chiffre pour rec se reconnaître, mais c'est un chiffre qui. Le sujet est lié avec le chiffre. Donc, on insiste dans, dans la Torah et dans l'explication chez nos sages, le chiffre 3, le rapport entre le chiffre 3 et la Torah. Et il est marqué que la Torah, elle insiste, la Torah, elle dit que en troisième mois, telle date, Chodesh, donc les nouveautés du mois, ça veut dire au début du mois, ils sont venus devant le Mont Sinaï, et ensuite il est marqué qu'ils ont reçu la Torah. Alors dans nos sages, chez nos sages, on trouve un lien approfondi, très fort avec le troisième moi, avec le chiffre 3, tel pour qu'il est marqué dans le Talmud, que la Torah devrait être donnée par quelqu'un qui est le troisième de naissance, donc Moshe, qui est le troisième de la famille, et c'était en troisième mois, et plus la notion de 3, parce que la Torah, elle est liée avec la notion de 3. Alors, parmi les explications pourquoi les 3, parce qu'on est dans un monde de division. Donc, on est dans un monde où on trouve toujours des paradoxes. Et la Torah, elle développe, comme on a l'habitude de développer, elle développe les paradoxes, et ensuite elle trouve un lien dans le paradoxe même, à tel point que ça devient l'unité dans le paradoxe. Donc, alors, il y a cette notion, et parmi la façon comment on étudie la Torah, il est marqué, il y a 13. Parce que la Torah, il est marqué la Torah, mais si on lit la Torah sans les règles, on ne comprend vraiment rien. Ce n'est pas qu'on ne comprend pas entièrement, on comprend vraiment rien. Donc alors, il y a 13 règles que d'ailleurs on les dit tous les matins avant la prière. C'est Rabbi Shmuel qui dit, voilà, ces règles, comment on peut comprendre la Torah. Et parmi les règles, c'est qu'il y a deux versets qui sont opposés, Ça veut dire que quand on lit un verset, on a l'impression que l'idée est comme ça. Et lorsqu'on lit l'autre verset, on a l'impression que c'est tout au contraire. Et à ce moment-là, il y a un troisième verset qui nous donne la possibilité de comprendre et dire que oui, c'est vrai qu'il y a les premières raisons, les deuxièmes raisons, et grâce au troisième, on peut comprendre pourquoi les deux sont raisons. Et souvent, on dit comme ça dépend de quoi on parle. Si on parle de tel cas, alors c'est vrai ce qu'il dit, les premiers. Si on parle de tel cas, c'est vrai qu'on dit ce qu'on dit dans les deuxièmes. Donc, alors, le troisième, il lit entre les deux, il nous montre une autre vision. Et d'ailleurs, c'est pour ça, c'est comme ça qu'on étudie la Torah. D'ailleurs, lorsque quelqu'un veut devenir rabbin ou juge, alors c'est vrai que, bien, on apprend la Torah, ça suffit, mais il y a un système de ce qui s'appelle smicha. Ça veut dire quelqu'un qui l'a appris, on imagine toute la Torah avec les lois, et les lois, c'est déjà, on n'étudie pas les lois comme ça, sec, c'est comme ça, c'est comme ça. On lit les lois avec les références et on suit normalement la réflexion des uns et des autres. Ça veut dire, parce que la Torah était construite, si on peut dire, comme on a dit tout à l'heure, Dieu nous a donné la Torah et en même temps, il nous a expliqué comment il faut apprendre la Torah. Comment, ça veut dire que c'est quoi le schéma, comme quelqu'un qui l'achète quelque chose, une machine ou d'autres, qui ne sait pas comment ça fonctionne, il doit suivre les schémas qu'on lui dit pour comprendre comment la machine, elle fonctionne. Donc, alors, la Torah aussi, la Torah était donnée, mais comme on a dit, que si on lit la Torah sans les règles, on comprend absolument rien. Ce n'est pas qu'on ne comprend pas entièrement, on comprend à moitié, on comprend absolument rien. En tout cas, c'est possible qu'on a compris le contraire de ce qu'il est marqué. Et c'est pour ça qu'il faut passer par tous les schémas de nos sages à comprendre pourquoi ils sont arrivés à cette conclusion, à dire telle et telle idée, que dans la Torah, il est marqué ça, et finalement, dans la loi, parfois, on voit des choses qui sont différentes de la Torah. Donc, il faut comprendre, c'est pour ça qu'il faut étudier le Talmud, pour comprendre les schémas qui nous amènent à conclure d'une autre manière qu'on a l'impression qu'il est marqué dans la Torah, parce que ce n'est pas une autre manière, c'est une manière réfléchie et approfondie. À ce moment-là, on arrive à cette conclusion. Donc un rabbin, normalement, en vérité chacun, mais un rabbin, il doit apprendre tout d'abord la Torah, il doit apprendre les lois juives, mais il doit passer par la logique. Ça veut dire la logique, le cheminement, comment on arrivait à telle conclusion. Et à ce moment-là, normalement, il devient un rabbin. Mais ça ne suffit pas. Normalement, on lui fait pratiquer chez un rabbin ancien. C'est vrai aussi pour le rabbin, c'est vrai aussi pour le juge. Et quelque part, il va voir des choses. Il va se dire, mais je ne comprends pas. Selon ce que moi j'ai appris, ça doit être différent. Et à ce moment-là, il va comprendre comment on comprend la profondeur des choses, pas ce qu'on a l'impression on a l'impression qu'on a compris, on l'habitue à réfléchir autrement. Oui, et c'est des choses, il faut donner des exemples peut-être pour comprendre, mais en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne la Torah. On nous donne la possibilité de se tromper, ça veut dire qu'on nous met devant un dilemme. Il faut comprendre pourquoi, comment on règle ce dilemme. À ce moment-là, on comprend pas seulement ce qu'il est marqué, on comprend aussi dans les cas, parce qu'il y a ce qu'il est marqué dans la Torah, mais ensuite il y a des choses qu'il faut déduire à partir de ce qu'il est marqué dans la Torah, dans les cas où ce n'est pas marqué dans la Torah, mais ça rentre quand même, parce que la Torah, elle prévoit toutes sortes de choses, toutes situations. Comme la justice, il y a des cas, toutes les discussions dans la justice se basent à connaître d'une part la loi et aussi comprendre quel rapport entre la loi principale et les cas, ce cas qui est venu devant nous, comment on peut déduire. Alors là, on peut avoir de différentes visions L'un, il va dire plutôt positif, l'autre, il va dire plutôt négatif. Et après discussion, on arrive à trouver un mi-chemin ou bien peut-être pas un mi-chemin. En fait, ce qu'on connaît dans la justice générale, mais c'est vrai dans la Torah. Donc, dans la Torah, il y a cette notion et que pour comprendre la Torah, il faut passer par un schéma inverse. Il y a un texte qui dit une chose, un texte qu'on a l'impression qui dit le contraire. Et le troisième texte, qui d'ailleurs souvent les trois textes se trouvent dans trois endroits différents dans la Torah, ça veut dire que ça ne marche pas ensemble. Ça veut dire dans un endroit, on parle d'un sujet, ensuite plusieurs chapitres, ou bien après on parle de choses qui nous paraissent opposées à ce qui a été dit. Et ensuite, pour comprendre ça, il faut aller parfois en troisième notion. À ce moment-là, ça nous dit qu'en fait, non. Le troisième nous révèle qu'il y a quelque part à mi-chemin. À ce moment-là, j'ai compris profondément qu'est-ce que voulait dire le premier, qu'est-ce que voulait dire le troisième. Voir qu'en vérité, ce n'est pas un paradoxe, c'est quelque chose que l'un complète l'autre. Eh bien, alors c'est pour ça que la Torah, elle est liée avec le chiffre 3, parce que le chiffre 3, c'est celui qui lit les différences. Donc le chiffre 2, c'est plutôt les différences. Aussi, il faut passer par là. C'est pour ça qu'il y a le mot d'Iyar, comme il est marqué dans le Chassidut. Quel est le rapport entre Iyar et la notion des deux? Et par contre, la Torah, c'est celui qui lit les différences entre des différentes visions de la vie. Donc on a deux visions. Ensuite, il y a le troisième qui lit et qui fait un ordre dans cette idée. Ok, c'est vrai que c'est pas aussi simple que ça, mais en tout cas, c'est ça l'idée de la Torah. C'est pour ça que la Torah, elle est venue au mois des trois, le troisième mois, que le troisième est lié, c'est un chiffre qui lit, qui est attaché avec la notion d'unité. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans la création du monde, on a parlé, il me semble, peu la semaine dernière, dans la paracha de Korach, que Korach, il était plutôt lié avec la notion de division. C'est pas la division est négative, mais d'une autre part, elle est nécessaire. Pour voir plus clair, il faut diviser les choses, comme beaucoup de choses, que pour voir, pour utiliser chaque chose dans sa entité, il faut diviser. Parce que si on ne divise pas, dans tous les domaines de la vie, il faut savoir diviser. Il y a dans l'éducation. Si on éduque les enfants d'une façon globale, ça veut dire que tous les enfants sont pareils. Alors à ce moment-là, toujours il y aura ceux qui sont forts et ceux qui sont faibles. Et ceux que leur identité, ils ne sont pas développés, parce qu'ils n'ont pas l'occasion de développer leur identité, parce qu'ils sont annulé devant d'autres qui s'expriment beaucoup plus fort. Et pour pouvoir développer la force de chacun, il faut savoir séparer. Etc., etc., ce qu'on connaît bien dans la vie. Alors l'idée de séparation est nécessaire, mais il ne faut pas rester au niveau de séparation, il faut savoir aller plus loin et réparer et trouver, après la séparation, trouver cette notion de troisième, etc., etc., beaucoup de sujets qu'on peut parler, on parle, on développe dans la notion des trois. Mais, donc ça c'est le troisième mois qu'il y a avec le mois de Sivan. Mais nous sommes depuis une semaine déjà dans le mois de Tammuz. Que le mois de Tammuz est plutôt lié avec le quatrième. Et le quatrième, le chiffre quatrième, parfois il se divise par l'idée de quand même une division. Après l'union, il y a quand même la division. Et ce qu'on peut dire tout simplement, que ce qu'on a parlé dans le troisième, la notion de troisième, c'est plutôt au niveau intellectuel. Au niveau intellectuel, il y a parfois deux manières de voir les choses, que l'un il oppose à l'autre, et il y a le troisième qui trouve la solution, et donc on arrivait. Mais ça, c'est au niveau intellectuel, mais au niveau actif, parfois il y a quand même une division après l'idée de l'unité. C'est vrai que très souvent, si on prend encore un exemple d'un enfant, très souvent le problème d'éducation vient parce que les enfants, ils n'ont pas compris quelque chose. Ça veut dire qu'ils ont des questions, ils n'ont pas de réponse à leurs questions. Ça peut être dans tous les domaines de la vie. Mais après tout, il y a une possibilité que même si qu'au niveau intellectuel on comprend, il y a d'autres choses qu'ils peuvent faire, qu'on va vers d'autres directions qui ne sont pas les nôtres. Ça veut dire, pas les nôtres, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être quelqu'un qui est très doué, mais il a quand même un problème quelque part qui lui fait être divisé des autres dans tous les domaines de la vie. Et c'est ça plutôt le symbole des quatre, le chiffre 4 est lié avec le mois de Tammuz, que le mois de Tammuz, c'est le mois qu'à l'origine, on connaissait ce mois par un mois de catastrophe. Donc alors, si on a réglé les problèmes avec le mois de Sivan, d'où vient quand même l'idée de Tammuz, qu'encore une fois, il y a une notion de quatre, de division après les notions d'unité. Alors effectivement, au niveau intellectuel, on ne règle pas tous les problèmes. En tout cas, il me semble que c'est ça l'explication. Et donc après, même si au niveau intellectuel, si on règle les problèmes à ce niveau, on a réglé beaucoup, mais ce n'est pas tout. Donc il peut arriver qu'on va dériver de la situation après l'idée de l'union qui a été faite par Sivan. Et ça, c'est par des différentes raisons, mais en tout cas, c'est une réalité que parfois on a bien compris le sujet, et pourtant on est attiré par certaines choses. Ça veut dire qu'il y a un endroit où, visiblement, le message de la Torah n'est pas pénétré pour une raison ou pour une autre. Et c'est ça qui représente l'idée des mois de Tammuz, le quatrième mois plutôt. Et il y a aussi le symbole des mois de Tammuz, mais en tout cas, là, on va parler plutôt des. Il y a le symbole des mots Tammuz, même si que le mot Tammuz ne vient pas encore de chez nous, mais qui représente quelque chose de négatif plutôt. Et il y a, donc surtout au niveau des chiffres, le quatrième, c'est quelque chose qui représente une notion de division après l'union. Ça veut dire que même là où on a réglé l'union, il y a quand même une notion de division. Et ça, on peut le trouver dans plusieurs domaines. Mais on ne va pas développer maintenant parce qu'il ne reste pas de temps d'arriver à développer cette idée. Donc le quatrième, c'est un mois d'un coup qui était représenté par les catastrophes. C'est pour ça que dans le calendrier juif, lorsque on essaie de trouver un symbole pour le mois, alors pour le mois de Nissan, vous allez trouver, même s'il y a plusieurs, 29 ou 30 jours, dans les différents mois, le mois de Nissan il y a 30, le mois d'hier il y a 29, mais chaque mois il a son identité. Et parfois on donne des images, il y a des photos, le mois de Nissan il y a avec la sortie de l'Égypte, le fait de Pessah. Le mois d'hier est plutôt lié avec la notion de Comté, Comté Omer. Le mois de Sivan est lié plutôt avec l'idée des dons de la Torah, ou d'autres, mais surtout aujourd'hui on parle des dons de la Torah. Et le quatrième mois est lié avec les notions de la destruction des temples qui commençait au mois de Tammuz par les brèches. Ça veut dire qu'après 2 années de siège autour de Jérusalem, ils ont arrivé à commencer à faire une brèche, une ouverture dans les murailles de Jérusalem qui faisait aussitôt amener la destruction de le mois de Av, donc le cinquième mois. Ça aussi, c'est un chiffre, le cinquième. En tout cas, là, on parle de quatrième. Donc, ça veut dire qu'après toutes les protections qu'il nous donne dans la Torah, il peut y avoir une brèche dans ces mêmes protections. Donc, on va plus loin. Et dans la vie, ça représente une idée de. Parfois, que l'éducation, après l'éducation, qu'on a tout donné, mais quand même, il y avait quelque chose qui ne passe pas, donc on est dans la notion de quatrième. Alors ça, c'était toujours, donc, le symbole de quatrième, c'est le mois où il y a une catastrophe qui ensuite amène une autre catastrophe plus grave dans le mois d'Av. Mais dans le monde chassidique, toujours, on a l'habitude de voir les choses autrement. Il y avait, dans les périodes beaucoup plus tardives, il y avait le contraire. Ça fait déjà presque un siècle, donc il y a exactement 98 ans, avec le rabbi précédent de Lubavitch, Rabbi Yosef Yitzhak, qui d'ailleurs c'était une période communiste, mais qui était opposée à toute religion, mais surtout ce qui nous concerne, la religion juive, il les a tout détruit, et le rabbi précédent, il a tout fait pour garder le judaïsme en Russie, et ce n'était pas simple. C'est très intéressant de lire les détails, il y a beaucoup de livres qui racontent. Et quelque part, on peut dire, puisque la majorité de la population juive à cette époque, elle était dans cette région du monde, alors sans le travail de rabbi précédent, on n'aurait pas été à ce qu'on est aujourd'hui au niveau du judaïsme. Et quelque part, son travail a sauvé le judaïsme. Ce n'est pas seulement quelque part, c'est évident que c'est comme ça, mais pour ça, il faut avoir plus de détails. En tout cas, c'est pour le mois, pour la population chassidique. Et en vérité, c'est celui qui regarde clair les choses pour la population générale. Et c'est le mois qu'il y a avec la libération du rabbi précédent. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, on l'appelle le mois de la libération. Donc, on voit deux sujets dans le même mois. Autrefois, c'était l'idée de destruction. Et aujourd'hui, c'était le mois de la destruction, pas vraiment la destruction, mais ce qui a porté à la destruction. Donc c'est un mois plutôt qui montre quelque chose de négatif. Et chez le monde Chabad, plutôt, même si on parle d'un événement beaucoup plus tardif, on parle de mois de libération. Donc il y a deux mois de libération dans le monde Chabad, en plus de ce qui est manqué dans la Torah. Celle des mois de Kislev et celle des mois de Tammuz. Et c'est très symbolique avec les explications, avec les idées autour. Et le rabbi explique, comme d'habitude, dans cette vision, que chaque difficulté, c'est pour amener à quelque chose de positif. Et chaque catastrophe, c'est pour arriver ensuite à quelque chose de sortir, de surmonter les épreuves. Et c'est pour ça que si le mois de Tammuz était un mois de catastrophe autrefois, c'est pas pour rester là, pour aller plus loin. Et c'est pour ça qu'avec les années, avec le travail, les différents travails que les peuples juifs ils ont fait dans le monde, déjà par faire travailler le judaïsme, malgré toutes les difficultés qui sont passées, on est resté, on est, les peuples, ils ont arrivé à garder, malgré les difficultés, malgré tous les problèmes, on arrivait à garder le judaïsme, mais de partout dans le monde. C'est le contraire. Les problèmes deviennent solutions et les catastrophes deviennent tremplin. Et c'est pour ça que le mois même de Tammuz, qui autrefois, même aujourd'hui, quelque part, symbolise une catastrophe dans le monde chassidique, ça symbolise plutôt une idée de libération, une idée positive. Et c'est pour ça aussi que d'ailleurs la notion de moi, de l'idée de le 17 Tammuz. Le 17 Tammuz, c'est le jour où commencent les trois semaines. C'est le mois où on commence les trois semaines de deuil qui se terminent par Tisha B'Av, Nef Av. Donc ça commence par le 17, parce que là où ça commençait les brèches, le Jérusalem ensuite était ouvert. En fait, le muraille de Jérusalem était donc ouvert. À ce moment-là, les ennemis ils ont rentré. Ensuite, ils ont amené la catastrophe et la destruction. Mais donc c'était le 17 Tammuz. En tout cas, une des fois, il y a les deux temples. Mais il y a des différentes visions. Est-ce que c'était les deux temples, les 17, ou bien c'était la deuxième en tout cas, mais il y avait quand même d'autres choses dans les 17 Tammuz, ce qui s'est passé dans les générations. Il est nommé, donc il y avait beaucoup de choses. Donc 17 Tammuz représente quelque chose plutôt de négatif. Mais dans cette vision chassidique, comme le rabbin nous montre, et c'est plutôt positif, ça veut dire qu'il faut, quand il y a quelque chose de négatif, c'est pour aller plus loin, révéler et changer le négatif pour positif. Et c'est pour ça que dans les chiffres hébraïque 17, on revient au nom de Tov. Tov, c'est en même temps que le chiffre, les gématrias, les géométries juives, et que le Tov, Tov, c'est le chiffre, ça correspond au chiffre 9. Vav, c'est le chiffre 6. 6 et 9, ça fait 15. Et encore Tov, Vet, c'est le chiffre 2. 15 et 2, ça fait 17. Donc, alors, le chiffre que autrefois c'était représenté par quelque chose de négatif, là, ça devient quelque chose de tov, bien positif, parce que aussi, c'est toujours la vision juive que chaque chose négative, il a en lui quelque chose de positif qu'il faut développer. Et donc, alors, là, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, que le chiffre 3 représente l'idée d'union après la division. Et le chiffre 4 représente quelque chose plutôt de négatif, que là on n'a pas arrivé à régler par la Torah visiblement, on va régler par l'acte. Ça veut dire qu'il y a encore des problèmes qui se présentent devant nous. Et par l'acte, on change les choses de négatif pour le positif. On va conclure cette fois-ci en disant que, donc c'est à moi de, on va essayer de reparler de tout ça la semaine prochaine. Mais c'est un mois de liberté, un mois de libération. Et d'ailleurs, pour terminer, rajouter un petit détail, la paracha de cette semaine, il y a beaucoup d'événements dans cette paracha. C'est une paracha qui parle d'une période beaucoup plus tardive de ce qu'on a parlé jusque-là, parce que jusque-là, on a parlé des Juifs dans le désert, dans la première période. Et là, on passe 38 ans après, avant de leur rentrer en Israël, et là il y avait le décès de Myriam, et là il y avait le décès d'Aaron, et il y avait pas mal de choses qui sont passées, les fameuses histoires avec Moshe qui, au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher, ce qu'il faut comprendre. Mais en tout cas, la Torah nous parle d'un sujet qui est assez étrange, et c'est pas dans l'ordre de la Torah, on parle de la vache rousse. La vache rousse, c'est un des sujets que... Parmi les sujets que la Torah ne donne pas d'explication. Non seulement que la Torah ne donne pas l'explication, parfois on a l'impression que c'est contre la logique, pour différentes raisons que je ne veux pas développer maintenant, mais en tout cas, il y a parfois où il y a des choses que je ne comprends pas, comme d'ailleurs la majorité des choses qu'on fait dans notre vie, dans n'importe quel domaine, on ne comprend pas ce qu'on fait, quand on conduit une voiture, on ne comprend pas forcément comment ça fonctionne, et pourtant on le fait, ou bien d'autres choses, on va chez le médecin, ou bien d'autres choses, on ne comprend pas. Mais ça ne nous dérange pas aussi que ça. Par contre, il y a des choses, parfois, qu'on a l'impression que c'est contre la logique. Donc, alors, à ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile de faire quelque chose que j'ai l'impression que je comprends, mais je comprends le contraire, et là, la Torah nous demande de faire le contraire. Alors, c'est un sujet qu'il faut comprendre, mais, donc, la vache rousse, c'est parmi ces... chose, mais on dit que c'est la loi de la Torah. Ça veut dire que le non logique dans ce domaine est beaucoup plus important que le non logique qu'il y a dans d'autres domaines. Alors, il y a pas mal d'explications, mais parmi les explications que le rabbi explique, le rabbi de Lubavitch, que tout est lié. Ça veut dire qu'il y a des mitzvot que la Torah ne nous dit pas, on ne comprend pas comment... Les notions déjà de pureté et impureté dans le judaïsme, ce n'est pas quelque chose qu'on peut expliquer. Même si aujourd'hui, dans notre ère moderne, on a d'autres choses qui peuvent ressembler à ça, mais quand même, quelqu'un qui est touché à mort, il devient impur. Et il a passé par le processus qu'on nous demande, par exemple, ce qui est marqué dans notre paracha, qu'il faut injecter sur lui des cendres, de l'eau avec des cendres de la vache rousse, là, il devient pur. Quel rapport? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça, c'est la mitzvah. Ensuite, il y a ce que représente la mitzvah. Ça veut dire qu'il y a ce qui nous touche profondément dans la vie. Souvent, c'est la mort. Quelqu'un qui a un proche est mort. Et la question qui se pose, comment on peut surmonter ces épreuves? C'est aussi parmi les choses qu'on a du mal à savoir. Ça dépend aussi comment on était proche avec cette personne. Mais surmonter des choses qui étaient très, très destructives, c'est très difficile. Et aussi, c'est le même sujet que la Torah nous dit, qu'on a toujours la possibilité de surmonter des épreuves, même les épreuves les plus ridicules, les plus difficiles dans la vie, comme les notions de la mort, il faut savoir surmonter, et c'est ça un petit peu le symbole de notre paracha qui représente, relié avec ce symbole général du mois de Tammuz, qui représente quelque chose de très dur et très difficile, et pourtant dans la chassidoute on montre le côté positif. Voilà, on a fait un petit tour dans cette idée, alors que ce mois, ce jour, soit vraiment comme leur symbole chassidique de fête, de libération, qu'on va trouver le bon dans le mal, pas seulement qu'on va trouver, il y a certaines choses qu'il faut trouver, il y a certaines choses qu'il faut, par un travail supplémentaire, changer le mal vers le bien, que notre monde il va trouver son bien malgré, et qu'aujourd'hui, parfois on se demande, c'était toujours le cas, mais où on y va avec tous ces problèmes. Mais dans le soudaïsme, on a cette vision positive, parce que tout négatif, c'est pour le positif. Donc que ce mois, il soit sur tout le monde un mois de liberté, un mois de joie, un mois de Mashiach. Merci beaucoup pour votre attention et à la semaine prochaine.